Salut à toutes et tous en cette nouvelle année qui commence. Alors, bienvenue en cette nouvelle émission de rentrée. Donc, on reprend Détournement féministe. Ça y est, pour l'année, c'est reparti. Donc, notre émission, c'est toujours tous les quatrièmes samedis du mois, de 15h à 16h sur Radio Campus Tours, 99.5 FM. Alors, pour aujourd'hui, donc, on espère que vous avez passé un bel été. Nous, ça a vraiment été le cas pour toutes. Et du coup, bah, ça va être la thématique de l'émission d'aujourd'hui. Donc, comme on avait toutes très envie de partager un moment, une expérience qui nous a traversé pendant l'été, on vous propose de les découvrir au fur et à mesure de l'émission. Mais d'abord, on va commencer par un petit point d'actu en instantané par Adèle sur la manif pour le droit à l'avortement.
Tout à fait, parce qu'aujourd'hui c'est le 28 septembre et c'est la journée mondiale pour le droit à l'avortement. Donc l'émission n'est pas en direct, on a enregistré jeudi, et parce qu'un certain nombre d'entre nous sommes actuellement en place Jean Jaurès, où à 15h il y a le rendez-vous pour la manifestation pour le droit à l'avortement, qui est organisée par le réseau féministe 37, qui est un collectif qui regroupe des organisations politiques, syndicales, féministes, des personnes individuelles. Et donc le rencard est à 15h, place Jean Jaurès. Donc si vous n'aviez pas l'info et que vous avez envie de nous rejoindre et de crier avec nous votre désir rageux de protéger ce droit à l'avortement, si vous avez envie de venir chanter avec nous votre solidarité à toutes les femmes dans le monde qui continuent à lutter pour conquérir ce droit, n'hésitez pas, plus on sera nombreuses et plus on se sentira forte, ce sera cool. Du coup, le trajet part de la place Jean Jaurès. On va remonter la rue Nationale jusqu'à la place Anatole France, piquer vers la fac des Tanneurs, redescendre un bout de la rue Marceau, finir par la rue des Halles jusqu'à la place des Halles où il y aura une prise de parole pour conclure la manifestation. Voilà, donc viendez, plus on sera nombreuses, plus on se sentira forte. Et du coup, moi, j'ai à l'esprit un slogan écrit par une copine que je trouve assez cool, qui est « plus d'IVG, moins de PDG ». Ça me fait plutôt marrer, et du coup, ça me fait associer sur ce que moi, je souhaitais partager avec vous d'une de mes lectures de cet été, d'un bouquin qui s'appelle « Le capitalisme patriarcal », qui est écrit par Silvia Federici, et que j'ai trouvé assez génial, et notamment un chapitre en particulier du bouquin, qui s'appelle « L'invention de la ménagère » et qu'elle publie en 2018. Et comme il y a encore pas mal de personnes, l'air de rien, qui ont tendance à considérer le travail domestique comme une vocation naturelle des femmes, et qu'en tant que femme vivant moi dedans moi, je me rends bien compte que ce n'est pas vraiment une de mes vocations naturelles, la lecture de ce chapitre m'a vraiment inspirée parce qu'elle reprend comment la construction de ce concept se déploie dans notre histoire, et c'est un savoir que je trouvais important de partager. Du coup, le travail domestique tel qu'on le connaît, c'est une construction assez récente qui date de la deuxième partie du 19e siècle et du début du 20e. Entre 1850 et le tournant du 20e, on assiste à la seconde révolution industrielle, c'est-à-dire au passage de l'industrie légère, textile, à l'industrie lourde, métallurgique et minière, avec notamment l'arrivée de la machine à vapeur. Et du coup, les besoins en main-d'œuvre se transforment et l'industrie a besoin d'une main-d'œuvre plus résistante, mieux disciplinée et plus productive. Or, pendant la première période industrielle, le mode d'exploitation capitaliste est plutôt à l'allongement maximal des temps de travail journaliers. Et du coup, la classe ouvrière est plutôt en mauvaise santé, elle meurt jeune, elle se reproduit de moins en moins. Et ça, c'est un truc qu'inquiète pas mal la classe capitaliste. Comment s'assurer que la classe ouvrière continue à se renouveler et qu'on ait toujours des ouvriers exploités? Et du coup, pour répondre aux besoins de renouvellement de la classe ouvrière, la classe capitaliste d'Angleterre et des États-Unis va engager une réforme du travail qui va transformer non seulement l'usine, mais également la collectivité, le foyer et en premier lieu, la position sociale des femmes. Silvia Federici, elle nous dit que du point de vue de ses effets sur les femmes, cette réforme peut être décrite comme la création de la ménagère à plein temps. Ça fait quand même un peu flipper. Et du coup, elle réhistorise les choses. C'est-à-dire qu'à partir de 1840, des experts sont mandatés par les gouvernements pour aller analyser comment les choses se déploient dans les usines. Les rapports commencent à se succéder pour recommander la réduction du temps de travail des femmes, notamment des femmes mariées à l'usine, afin qu'elles puissent être en mesure d'accomplir leur travail domestique. À partir de 1842, des lois sont votées pour réduire le temps de travail des femmes et des enfants, puis pour interdire le travail de nuit des femmes. entre 1862 et 1875, le salaire des travailleurs hommes est substantiellement augmenté et offre la possibilité aux ouvriers les mieux payés de subvenir aux besoins d'une ménagère inactive. Je fais des guillemets avec mes doigts pour dire inactive. En 1870, on voit apparaître un système d'éducation nationale. Et à la fin du 19e, dans les écoles élémentaires publiques apparaissent les cours de sciences domestiques. Voilà, en l'espace d'un demi-siècle, la fabrique des ménagères prolétaires est lancée. On assiste à la mise en place d'une nouvelle politique publique, d'un nouveau contrat social, d'un nouveau régime productif, en somme, d'une nouvelle forme d'accumulation primitive. Et Silvia Federici annonce que, au moment de la Première Guerre mondiale, c'est devenu la norme dans tous les pays industriels. La femme prolétaire est chargée de s'assurer que le salaire est bien dépensé, le travailleur bien soigné, bien nourri, bien baisé, assez pour être consommé par une autre journée de travail. Et elle est également en charge de s'assurer que les enfants soient convenablement éduqués pour être de futurs travailleurs de bonne qualité. Voilà. Et ça me semblait être un savoir assez important à partager. Moi, en tout cas, j'ai trouvé ça trop ouf. Et en cette journée mondiale pour le droit à l'avortement, je dois dire qu'une des idées qui me traverse l'esprit, c'est que peut-être bien que l'IVG, ça pourrait être une de nos meilleures armes pour anéantir. Voilà, pensez-y.
Merci Adèle.
À vous les studios.
Donc, avant de passer à la suite, on vous propose d'écouter une petite musique qui va être bien en lien avec ce qu'Adèle vient de nous raconter, puisqu'il parle aussi du travail. Et donc, la musique s'appelle « On parle de parité par les fémoustés ».
Spécialement dédicacée, coutière, cadrière, infirmière, jardinière, pâtissière, tapissière, biscuitière, joaillière, téléphoniste et machiniste, aux fleuristes, aux choristes, aux urbanistes, aux ébénistes, aux pépiniéristes, aux satiristes, aux coloristes, aux courriéristes, aux chimistes, aux hygiénistes, aux trompettistes, aux trapézistes. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas gagné la bataille. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas fini de batailler. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas gagné la bataille. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas fini de batailler. Dédicacé aux géologues, psychologues, sociologues, sinologues, philologues, écologues, graphologues, archéologues, paléologues, marinières, infirmières, costumières, couturières, façonnières, gantières, lingères, ménagères, guichetières, secrétaires, romancières, aventurières, vas-y, continue la liste. Téléphoniste, machiniste, économiste, violoniste, étalagiste, paysagiste, métallurgiste, aquarelliste, carriériste, archiviste, journaliste et modéliste. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas gagné la bataille. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas fini de batailler. On parle d'égalité, gagner la bataille. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas fini de batailler. Dédicacées aux serveuses, aux chroniqueuses, aux visiteuses, aux chercheuses, aux enquêteuses, aux ajusteuses, aux acheteuses, aux chanteuses, aux danseuses, inspectrices ou perforatrices, dessinatrices, créatrices, animatrices, opératrices, réalisatrices, productrices, éducatrices, monitrices, compositrices, cantatrices, galériennes, magiciennes, aux historiennes, aux bohémiennes, aux grammairiennes, aux physiciennes, aux techniciennes, aux gardiennes, aux électriciennes, aux mécaniciennes, aux comédiennes, aux pharmaciennes, aux musiciennes, aux famosiennes. À toutes celles saisonnières, aux céréalières, aux journalières, qui pour un travail égal à celui qui font le mal, la qualification égale, touche moins, c'est pas normal. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas gagné la bataille. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas fini de batailler. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas gagné la bataille. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas fini de batailler. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas gagné la bataille. On parle d'égalité, on parle de parité.
Alors, on va reprendre cette émission de rentrée avec une petite pensée pour Fred, donc de Détournement Féministe, qui est actuellement là, en ce moment, en pleine vendange, mais qui avait quand même envie de participer à cette émission aussi et de partager son expérience de l'été au Festival de films de Douarnenez. Et du coup, qui a été interviewé par Adèle hier soir. Et donc, on va passer cet enregistrement.
Ok. Fred, toi, tu voulais nous parler du Festival du film de Douarnenez. Est-ce que tu peux nous raconter un peu de quoi il s'agit ?
Alors, pour te dire, effectivement, c'est un festival de films qui a lieu à Douarnenez, c'est-à-dire un peu au bout de la terre de France, et qui est donc un film avec plein de films, mais aussi plein de rencontres. Il y a par exemple 2 débats par jour. Il y a de quoi faire la fête. On peut parler français, breton, langue des signes aussi beaucoup. Il y a plein de gens qui le signent et c'est vraiment super. Et voilà, c'est dans une petite ville au bord de la mer et c'est voilà un lieu de rencontre très très enthousiasmant. Voilà, et qui existe depuis 1978. La première année, c'était sur les minorités, c'était sur le peuple québécois. Et en 79, c'était sur les nations amérindiennes d'Amérique du Nord. Et ça représente bien, enfin voilà, ça existe depuis cette date-là. Et c'est surtout un festival sur les minorités et avec les minorités, on va dire. Voilà.
Quelle qu'elle soit. Et du coup, cette année, le thème, c'était l'Algérie. Est-ce que tu peux nous raconter un peu de quelle manière ce thème a été décliné pendant le festival ?
Ouais, alors comment décliner ? Il est décliné de plein de manières, en fait, déjà par une foultitude de films, je sais pas trop combien il y a de films, mais il y en a du matin au soir déjà, dans 5 salles différentes, donc c'est plein de films. En plus de ça, il y a des écoutes sonores, des expos, enfin tout un tas de trucs, voilà quoi. C'est un festival qui, dans ses choix, est assez militant et va choisir de projeter des films qui parlent de l'actualité politique, souvent avec les enjeux politiques, mais aussi culturels, enfin la vie des gens, en gros, c'est un festival populaire, on va dire. Donc cette année, comme c'était l'Algérie, ça a beaucoup parlé du mouvement Hirak, qui est le mouvement actuellement qui se passe en Algérie depuis le 22 février 2019. Il y a des manifestations tous les vendredis. Voilà, d'abord pour revendiquer le départ du président, enfin le changement de présidence. Et finalement, s'agrandit, s'élargit sur des questions sociales. Et les questions des femmes sont très présentes dans ces questionnements-là. Et donc, ça a été beaucoup évoqué. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de femmes qui participent à ce mouvement qui étaient invitées. Aussi, beaucoup de réalisatrices. Et donc, il y a une part belle qui est faite aussi au festival, faite par des femmes aussi. Et voilà. Donc, je ne sais pas. Il y avait peut-être pas moitié-moitié, mais disons qu'il y avait beaucoup de femmes qui étaient présentes et actives dans ce festival. Voilà. Et bien sûr, la thématique algérienne recoupe d'autres thématiques transversales qui sont présentes dans le festival, qui sont aussi les questions LGBTIQ+. Et les questions du monde des sourds aussi. Il y a beaucoup de films sur le monde des sourds. Et voilà. Et tout ça, ça se croise. Et du coup, c'est très chouette. C'est, voilà, je pense que j'ai fini sur cette question.
Et est-ce qu'il y a un coup de cœur pour toi de particulier dans ce que tu as pu voir ou écouter durant ce festival que tu aurais envie de partager avec nous ?
Fou, ça va être très dur parce qu'il y avait plein de choses, c'était très riche. Il y a eu pas mal de discussions qui étaient chouettes. Je parlais qu'il y avait 2 débats par jour, il y a eu plusieurs discussions qui ont lieu avec des femmes algériennes qui étaient présentes, qui s'impliquent soit sur les questions LGBTIQ+, ou sur les questions féministes et qui participent notamment au mouvement Hirak, voilà. Notamment, je pense à Amel, qui était présente dans plusieurs discussions, qui est une des rares personnes, on va dire, activistes, militantes qui... alors, elle ne le revendique pas ouvertement comme ça, mais dont on sait l'orientation sexuelle. Il faut savoir qu'en Algérie, l'orientation sexuelle est criminalisée comme un peu partout en Afrique du Nord, et qui est en fait un héritage des lois coloniales. En fait, c'est un truc qui est assez répété pendant le festival, ça, que en fait, il y a beaucoup de lois discriminatoires qui sont liées en fait à l'héritage colonial français. Voilà. Donc je parlais de donc Amel, vite fait, c'est une nana qui est impliquée aussi dans des associations de prévention du VIH et voilà, dans le carré féministe, je disais, dans le mouvement Hirak, et auprès de prostituées aussi, auprès de personnes prostituées, et voilà, entre autres, et bon. Bref, j'abrège. Et sinon, je parlerai peut-être d'un film que j'ai bien apprécié. J'ai pas pu voir beaucoup de films, malheureusement, mais j'ai fait d'autres choses. Et ce film-là, c'est La langue de Zahra, qui est de Fatima Sissani. Et donc, je sais plus de quelle année, mais 2011, je crois. Donc, il y a aussi journaliste qui a bossé pour le Monde Diplo aussi. Qui est franco-algérienne pour le coup, et qui est un film sur donc la langue de Zahra. Donc c'est sa mère, en fait, elle filme sa mère qui est kabyle, qui est arrivée en France, voilà, en pensant retourner en Algérie. Et le film commence sur cette question, mais pourquoi t'as pas appris le français? Et en fait, c'est un peu une question qui passe un peu à la trappe, parce que pour moi, j'allais rentrer dans mon pays, quoi. Et en fait, on découvre petit à petit la richesse de la langue kabyle, et aussi la poésie qu'il y a dans cette langue. Et donc, il y a des allers-retours dans le film entre l'appartement ou d'un monde féminin, en fait, mais en France, enfermé dans l'appartement, avec des passages en Kabylie où il y a sa mère et les sœurs de sa mère, et du coup les filles, et qu'un monde de femmes en Kabylie, avec les paysages superbes de Kabylie, quoi. Et voilà, et petit à petit, on se rend compte du coup de la richesse de cette langue et de l'expressivité de cette langue qu'utilisent ces femmes. Et notamment de façon assez poétique, quoi, qui passe par, de façon assez poétique. Et il y a aussi la question de la transmission de génération entre la mère, la fille et ses sœurs aussi, du coup, les sœurs de la réalisatrice. Voilà, et c'est un très beau film. Bon, il y avait beaucoup de choses qui étaient chouettes. Il y avait aussi des courts-métrages. Des courts-métrages issus d'un atelier d'écriture de, comment elle s'appelle, je ne sais plus, de Habiba Jahnin, qui a aussi réalisé un super film qu'il faudrait trouver, qui s'appelle Lettre à ma sœur, mais je ne vais pas en parler. Et donc cet atelier d'écriture, donc avec plusieurs femmes algériennes qui ont réalisé des films, du coup, grâce à cette réalisatrice. Voilà, encore de la transmission entre femmes.
Trop cool, merci beaucoup Fred.
Donc, on va continuer notre petit voyage dans notre été et dans l'espace aussi, puisque maintenant c'est Bertie qui va nous parler de son voyage à vélo de cet été.
Merci Audrey. En effet, moi ce que je voulais vous partager, c'était mon expérience de voyage à vélo que j'ai fait cet été sur plusieurs centaines de kilomètres sur une grosse semaine. C'était un voyage que j'avais envie de faire depuis très très longtemps. Seule, que voilà, j'avais envie de prendre mon vélo et de me retrouver sur les routes. Est-ce que ça signifie de tranquillité, de choisir son rythme, de retrouver une autonomie aussi mécanique? Parce que ça fait quelques années que je suis avec quelqu'un, un homme, qui gère très bien la mécanique vélo, et j'ai réalisé, tout à fait par mes propres responsabilités aussi, je crois, que j'avais beaucoup déchargé la mécanique vélo. Et du coup, j'avais envie de me retrouver toute seule pour ça aussi, pour retrouver cette autonomie, de réparer son biclou s'il y a besoin, de rencontrer les gens, parce que quand on est à deux, déjà, on rencontre, je trouve, moins facilement. Donc, c'est une grosse envie que j'avais envie, c'est une grosse envie qui durait depuis très longtemps en moi, qui s'est nourrie petit à petit. Et finalement, je suis arrivée à un moment donné où ça y est, j'étais prête à partir, c'était décidé, j'allais faire ce voyage cet été. Et puis, au cours de la préparation, ou à force d'en parler autour de moi, j'ai rencontré des peurs qui n'étaient pas à ce moment-là forcément les miennes. Et c'est des peurs, du coup, qui m'ont mise aussi en colère. Parce que... et du coup, ces peurs-là, cette colère-là a nourri le fait de partir quand même en voyage. Parce que c'est des peurs liées à mon statut de femme, au fait que je sois une femme qui décide de partir seule à vélo. Et alors bien sûr, quand on parle de ça autour de soi, les gens s'imaginent tout de suite que parce que tu pars seule, tu pars dans un cockpit, quoi. Il n'y a plus rien autour de toi. Enfin, c'est fini, tu vas être isolée au milieu de rien, de la cambrousse française. Enfin, vraiment, il peut t'arriver les pires choses. Voilà, enfin déjà, quand au bout de quelques fois on te parle de ça, tu commences à dire « ouais, c'est vrai, ça peut m'arriver ». En plus que je fais partie des femmes qui ont cette peur un peu de l'agression, parce qu'on en parle beaucoup, parce que voilà, il y a des traumatismes aussi qui sont nourris, des terreurs qui sont nourries. Et donc voilà, il y a quelques petites anecdotes qui sont venues nourrir ces peurs. Par exemple, je suis partie donc sur juillet-août, et déjà au mois de mai, en parlant avec un copain, ami, si on veut, du coup, ça repositionne les éléments, qui me dit... oui, alors, mais tu sais, il y a une femme, bah, d'ailleurs, je crois qu'elle était de la région Pays de la Loire, Centre-Val de Loire, il y a quelques années. Alors, elle avait organisé un voyage à traverser du Canada à vélo toute seule. Et en plus, elle avait même organisé un financement participatif pour payer son voyage, tout ça. Alors, bien sûr, il te présente la meuf, forcément, elle a fait sa maline, quoi. Ouais, elle a fait ci, elle a fait ça, et puis bim. Et donc, il me raconte tout ça, ok, il va en venir où pour me dire que le premier jour, le premier soir, elle pose sa tente au milieu, au Canada, dans la campagne. Bah, elle s'est fait agresser par plusieurs mecs, passage à tabac et viol aussi collectif. Enfin, non, il a pas rigolé, j'exagère un peu, mais dans ma tête, c'était un peu, mais... Ok, t'essayes de me dire quoi, en fait? Que ça t'emmerde que je prenne la décision de partir toute seule et que t'essayes de venir me... De venir me dire « fais attention, il peut t'arriver quelque chose ». Et alors déjà, ça venait nourrir la peur, mais ça venait aussi créer une colère. Donc ça m'a mise en colère envers cet homme, que j'ai trouvé très irrespectueux de venir me raconter ça alors que je m'apprêtais à vivre cette expérience. Contrairement à des discussions que j'ai pu avoir avec des meufs qui te disent aussi « mais t'as pas peur ». Mais c'est juste ça, on te dit pas « t'as pas peur de quoi ». On te dit « t'as pas peur » et puis tu peux argumenter, tu peux discuter, mais on vient pas te donner ces images-là traumatisantes, enfin, dans la tête. Et donc, du coup, il y avait... déjà, je partais avec ces images-là, plus toute la pratique du vélo, je dirais plutôt urbain aussi, que je connais, et je pense qu'on connaît toutes, et toutes celles qui font du vélo, où on a toutes eu droit un jour des petites réflexions du style au feu rouge. Connasse, j'aimerais bien être ta petite selle. Ou « salope, bouge ton gros cul ». Bon, et je suis désolée pour la vulgarité, mais c'est une réalité et c'est comme ça que ça se passe. Et en préparant l'émission, j'ai fait un petit tour sur Internet pour voir aussi les témoignages de meufs qui avaient fait du vélo. Et y en a pas mal, des meufs qui sont harcelées vraiment sexuellement et de façon... avec des propos très misogynes au quotidien en vélo. Donc voilà, il y avait déjà ces éléments-là. Je partais avec ces trucs-là, de peur de l'agression, du fait d'être toute seule, tout ça... et puis il y avait aussi mes expériences de vélo un peu sportif ne serait-ce que sur les bords de la Loire, où des fois tu croises des mecs et qui sont un sportif, donc t'as un sportif, t'as un vélo sportif, t'as un vélo de course, t'as un cuissard, un maillot, tout ça, puis il y en a, ils te croisent et ils te regardent, t'as l'impression que t'es un morceau de viande. Leur regard, moi, c'est quelque chose qui s'imprègne en moi, et j'ai juste envie de me descendre de mon vélo, de les attraper et de franchement leur faire bouffer ce qui les définit comme homme dans notre société. Et vraiment, ça me met hors de moi parce que ça me gâche ma sortie vélo, en fait. J'ai l'impression d'être plus que ça, quoi. Et c'est un regard que c'est les sifflements qui peuvent être dans la rue au quotidien. Enfin, c'est du harcèlement. Pour moi, c'est du harcèlement parce que on me ramène dans ma pratique sportive à mon statut de femme. Ce qui vraiment m'énerve, enfin, me met en colère. Donc, pour moi, c'était un peu la double peine, en fait, de partir à vélo toute seule. C'est-à-dire, j'avais toutes ces peurs qui étaient nourries par l'entourage masculin. Et puis aussi, le fait de partir seule, j'étais assez sereine parce que j'avais confiance au fait que je pouvais me débrouiller. Mais bon, voilà, c'était un peu... t'es une meuf, tu pars à vélo, bah, tu vas devoir te débrouiller. Et en plus, tu pars avec tout ton bagage et ton héritage de meuf qui part faire une activité qui est jusqu'à présent plutôt essentiellement occupée par la part des hommes. Voilà. Et donc, j'avais tout ça en tête. Ça m'a freinée à un moment donné. Et je crois que cette peur est venue vraiment s'appuyer sur le féminisme, sur le fait de connaître d'autres meufs qui partent à vélo toutes seules, avec qui il n'arrive bien sûr rien, d'avoir envie de me dire, franchement, vous nourrissez toutes ces peurs, et du coup, elles vont vraiment nourrir le fait de dire, mais en fait, je vais partir et il ne va rien m'arriver. Bon, bien sûr, il ne m'est rien arrivé. J'ai rencontré des gens super, des hommes comme des femmes. Dès le premier jour, j'ai rencontré une personne avec qui j'ai pédalé pendant 3 jours. Et ça, je crois que c'est... cette colère, cette peur qui a nourri une colère, ça m'a donné envie de dire, mais je ne vais pas me cantonner à la place dans laquelle on veut me mettre. Parce qu'on nourrit des peurs autour de moi, je pense que c'est ce qui arrive beaucoup aussi aux femmes qui font du stop toutes seules, où la première question c'est souvent « mais t'as pas peur ?»« J'ai pas peur de quoi ?» Enfin, bien sûr qu'on sait de quoi on peut avoir peur, mais arrêtons de nous poser la question, arrêtons de nous massacrer en nous rappelant sans cesse à chaque fois qu'on fait quelque chose avec notre propre initiative, sans accompagnant, mâle, masculin, hein, parce que je crois que quand on peut être une ou deux filles ensemble, ça peut être la même chose. Arrêtons de nous rappeler toujours que nous sommes des femmes avec cette vulnérabilité qui nous situe comme des femmes. Donc voilà, c'est le fait de m'appuyer sur ça, de me dire non mais ces peurs, c'est pas les miennes en fait, on me les a nourries, on me les a imposées et j'ai pas envie qu'elles m'empêchent de faire quelque chose que j'ai envie de faire depuis très très longtemps. Et du coup j'y suis allée et ça s'est super bien passé et bon voilà, du coup ça a été une expérience qui m'a permis de nourrir beaucoup plus ma capacité, ma confiance en moi. Alors je dis pas, hein, c'est pas magique, hein. Au bout de 7 jours c'était un peu passé, mais enfin, malgré tout ça a vraiment nourri le fait qu'on peut faire quelque chose, que si, l'essentiel, s'il y a quelque chose qui tient à cœur depuis très très longtemps, ne pas s'empêcher de le faire parce que l'entourage, l'environnement patriarcal en particulier dans lequel nous vivons vont nous empêcher et vont nous freiner. Donc c'était vraiment une forte expérience pour ça.
Super, merci Bertille. Et du coup, est-ce que tu aurais une petite anecdote à nous partager sur ton voyage ?
Oui, j'ai une petite anecdote. Alors, j'étais du côté du bassin d'Arcachon et donc des lignes droites. Une belle piste cyclable, belle ligne droite. Je pars tôt vers 7h30, 8h. Je me dis, je vais croiser personne. Que nenni. C'était le jour de sortie des clubs cyclistes. Alors, je sais pas si vous voyez à peu près à quoi ressemble la composition d'un club cycliste, mais c'est messieurs d'une cinquantaine d'années, hein, les jeunes retraités jusqu'à une soixantaine d'années et tout. Ils sont tous habillés dans les années 90 encore. En tenue lycra et tout. Et donc, ils sont tous ensemble. C'est que des mecs, hein, la plupart. Même si on commence à voir apparaître des meufs, c'est quand même 90%, voire 95% d'hommes encore. Et alors, ça, c'est un regard aussi. Hein, c'est toujours le regard, mais celui-là, il me fait plutôt sourire. C'est, donc, moi, je suis en tenue sportive. Hein, j'ai un cuissard, maillot de corps de vélo. J'ai un vélo de course. J'ai du bagage, je suis assez légère. C'est-à-dire, j'ai 2 sacoches à l'avant, 1 tente à l'arrière. Donc, je suis pas une grosse mastoc. Je suis plutôt vraiment en mode sportif. Et les hommes qui me croisent à ce moment-là, et vraiment tous, hein, il y en avait une cinquantaine en plus. Et tous les 10, il y en avait un pour me regarder. Et on voit sur leur visage qu'ils se disent « Ah ouais, c'est une meuf ? C'est une femme ? Elle est toute seule ?» Alors oui, messieurs, pour information, hein, cette rentrée 2019, où les inscriptions dans les clubs cyclistes vont commencer, ou ont peut-être déjà commencé, les femmes savent faire du vélo. Les femmes savent faire du vélo et pas uniquement du vélo hollandais. Elles savent pédaler toutes seules sur plusieurs dizaines, voire centaines de kilomètres pour certaines dans la même journée. Elles savent suivre un trajet, définir un trajet. Elles savent même camper toutes seules, se faire à manger, porter leur bagage. Ne soyez pas étonnés, elles savent changer leur chaîne. Elles savent, nous savons faire du vélo. Voilà, donc ça va arriver de plus en plus. Alors c'est vrai que le monde cycliste sportif nous aide pas trop, mais petit à petit ça vient. Donc voilà,
soyez de moins en moins étonnés, une femme, ça sait faire du vélo et ça sait faire du vélo sportif. Merci.
Merci Bertie, c'était super. On va changer complètement de domaine. On va passer du voyage à vélo à la lecture, ce qui est souvent aussi une activité de l'été, pour rester dans cette thématique. Et donc c'est Tiffany qui va nous présenter des livres jeunesse.
Bonjour à tous et toutes. Oui, j'avais envie de parler de littérature jeunesse, que c'est quelque chose que j'aime beaucoup aller fouiner. Parce que j'ai des enfants autour de moi aussi, je vis également avec une petite fille la moitié du temps et du coup voilà, j'aime beaucoup lire des histoires et je suis allée voir où était le sexisme, où était aussi le racisme, où étaient les règles hétérosexuelles dans cet espace-là. Donc littérature jeunesse, ça va de l'album jeunesse maternelle, crèche, au roman ado, bande dessinée. C'est assez large et du coup cet été en fait j'ai fait des jolies trouvailles, du coup c'est pour ça que j'avais envie de vous partager un peu ces trouvailles-là et puis aussi qu'on regarde un peu dans la littérature jeunesse ce qui pouvait être empreint de sexisme et de stéréotypes et pour vous donner quelques exemples... même si je sais que certaines les voient, mais parfois ils sont tellement gros qu'on les voit plus aussi, ou surtout on est tellement habitué aussi à avoir lu ces bouquins quand on était enfant qu'on va peut-être moins se poser la question, ou on va avoir envie de lire les histoires des enfants d'aujourd'hui, celles qu'on a lues quand nous on était enfants, en fait peut-être pas. Peut-être qu'il faut revoir ou alors avoir une bonne discussion après. Parce que, par exemple, moi, je sais qu'au début, j'en pouvais plus de lire des histoires de princesses. Vous voyez, les princesses de Walt Disney ou toutes les autres princesses, ça commençait un petit peu à me sortir par les yeux, bien que les dessins soient jolis. Mais surtout parce que, en fait, la princesse, dans les livres de petites filles, la princesse plutôt classique, c'est-à-dire la princesse qui attend son prince charmant, qui cherche l'amour, hein, parce qu'a priori, dans la vie, on n'a que ça à chercher. L'aventure non, mais l'amour oui, et puis surtout dans une posture passive où ce qui serait intéressant c'est d'avoir des belles robes, de porter des paillettes, des chaussures à talons d'être dans un beau château et de pas pouvoir en sortir. C'est quand même beaucoup ça. Alors quelques princesses ont un peu bougé, hein. Mulan est un peu une princesse qui a fait bouger les choses chez Walt Disney, mais quand même, si on regarde tous les livres ou les dessins animés même, et moi ça j'en pouvais plus, du coup je suis allée chercher des livres qui parlaient de princesses autrement, et j'en ai trouvé, je vous donnerai quelques titres tout à l'heure qui m'ont bien plu, mais qui parlent toujours de la princesse, parce que la princesse est quand même une représentation assez importante qu'on trouve dans beaucoup de livres, avec la fée aussi pour les enfants et notamment pour les petites filles, parce qu'a priori les livres de princesses, les garçons ils les lisent pas. Parce que c'est aussi une caractéristique actuelle de la littérature jeunesse, c'est qu'on fait des livres pour les filles et pour les garçons. Et puis, on ne lirait pas les unes aux autres, quoi. Sauf si on a un grand frère, une petite sœur ou une grande sœur. Ça se mélange un peu dans les maisons, mais sinon, en fait, c'est très, très genré et c'est même plus genré qu'il y a quelques années. Donc ça, moi, ça m'interroge beaucoup. Pourquoi on lirait spécifiquement des histoires aux filles et spécifiquement des histoires aux garçons? Et du coup, chez les garçons, bien sûr, ce n'est pas la princesse. Un petit peu le prince, hein, qui est un sauveur, c'est pour ça qu'on est en danger, hein, faut bien qu'on ait peur quelque part et que quelqu'un vienne nous sauver. Ce serait pas une copine, ce serait pas une princesse qu'on aimerait, c'est un prince, bien sûr, dans la littérature jeunesse, très très souvent. Et puis sinon, les autres images du garçon, c'est les super-héros, les pompiers, les camions, les voitures, les grues. Ils sont montrés comme plutôt forts, courageux, ils ont pas peur, ils sont très sportifs, ils ont l'aventure. Voilà un peu eux ce qui est plutôt dans les histoires qui mettent les petits garçons en scène, ou après dans les rôles c'est aussi les papas qui sont plutôt des hommes forts qui travaillent, et dans la littérature jeunesse la maman est forcément celle qui s'occupe le plus souvent des enfants, hein. Vous verrez quand c'est autour de la famille, elle est principalement hétérosexuelle, hein. Il y a quelques livres qui commencent un peu à parler d'homoparentalité, mais elle est quand même de domination hétérosexuelle, et puis c'est souvent la maman qui s'occupe de faire le repas, d'aller à la sortie de l'école, d'aller faire les câlins pour le soir. Le papa est celui qui est près du fauteuil, parfois avec un journal, et puis avec son cartable de travail. Vous voyez un peu, certains se diront que je caricature un peu, mais regardez un peu, pas tant que ça. Petit ours brun est une bonne représentation pour montrer ça, par exemple. Et sur les petites filles qui seraient plutôt passives ou à qui on propose plutôt de rester à la maison, dans des espaces intérieurs, de jouer à la poupée, de jouer à la cuisine. Martine est une très bonne expérience. Et certaines se disent « Oh non, mais Martine, quand même, c'est plus de notre époque. » Bah, en fait, quand même, il y a des études qui ont été faites, hein, parce que il y a des chercheuses qui s'intéressent à ces questions-là. Et ben Martine est encore un des livres les plus vendus en France. Voilà. Ouais. Donc Martine à la plage, Martine à la maison. Enfin voilà. Moi je les ai pas lus, donc j'avoue, je crois que là ma famille m'a épargnée sur ce coup-là. Merci. voilà, tout ça pour vous dire que tout ça est très normé et conditionne et ça nous fait rire, mais en fait, la littérature jeunesse, on s'en sert à l'école, on lit des histoires aux enfants le soir, les enfants adorent qu'on leur dise des histoires et du coup, ça conditionne en fait. Et c'est pas étonnant qu'on ait peur d'aller en vélo, c'est pas étonnant qu'on se vive comme une future mère qui va pouvoir faire des enfants pour nourrir le capitalisme, parce que ces rôles-là, c'est les rôles dans les histoires qui nous sont déjà montrées et auxquelles on va s'identifier, parce que la littérature jeunesse sert à s'identifier, qu'on soit enfant, adolescent, à tous les âges. Ça nous raconte des choses qui pourraient être ce qu'on aurait envie de devenir. Et du coup, tout est quand même très, très conditionné. Et voilà, c'était un peu... Moi, c'est un peu ça, mon coup de gueule. C'est qu'avec tous les enfants qui sont autour de moi, à qui j'ai envie d'offrir des livres, parce que c'est une chose que j'aime beaucoup et que je trouve précieuse, parfois, j'ai un peu les boules de ce que je vois. Et puis, l'autre petit point qui, moi, me chagrine en ce moment, et c'était une de mes trouvailles de cet été où j'étais très contente, c'est les livres, de plus en plus, évoluent. Mais quand même, les familles sont blanches. Les familles mixtes, ça n'existe pas. Les familles racisées, ça n'existe pas. Quand on parle de l'Afrique avec les enfants, quand on cherche des histoires, c'est Kirikou, qui est une belle histoire, mais qui est quand même une histoire où on montre qu'il vit pieds nus, qu'il vit dans une hutte, comme si l'Afrique était cette représentation uniquement, par exemple. Voilà. Et ça, moi, c'est des choses qui me dérangent, parce que c'est pas ce que j'ai envie de montrer aux enfants qui sont autour de moi. J'ai envie de leur montrer une vision du monde différente et plus ouverte que ça. Et puis, du coup, c'est pour ça que j'ai quelques petits bouquins à vous dire. Il me reste plus trop de temps, donc je vais vous en dire un seul qui compte beaucoup pour moi, que j'ai trouvé cet été, qui est comme un million de papillons noirs, de Laura Nsafou Barbara Brun, qui est un bouquin que je cherchais depuis un petit moment, parce qu'il avait du mal à être édité. Et je l'ai trouvé dans une des librairies cet été où je suis allée un peu traîner. Et justement, c'est sur une petite fille noire dont on se moque à cause de ses cheveux, qui au début, elle voyait pas du tout le problème, elle aimait bien ses cheveux. Et puis, à force d'avoir des railleries, des moqueries à l'école, ça commence à la chagriner. Et ça va parler de ça. Les dessins sont assez jolis, c'est très poétique aussi comme histoire, et c'était un livre que je cherchais, qui est plutôt un album maternel, début de primaire, et qui parle aussi de ces différences-là, et qui montre aussi d'autres réalités que les cheveux blonds de princesse, blonds, bouclés, voilà. Et alors, a priori, j'ai un petit peu de temps supplémentaire, on me dit. Du coup, je vous partage un ou deux titres pour, si on voulait regarder un peu sur... les questions d'hétérosexualité, homosexualité pour les identités, il y a Le bleu est une couleur chaude, que plutôt une bande dessinée, mais que tout le monde connaît plutôt avec le film La vie d'Adèle, mais qui est une bande dessinée initialement, qui est une aussi graphiquement, moi je trouve, une belle bande dessinée, puisque le bleu est une des dominantes du livre, ce qui n'est pas tout à fait le cas dans le film. Sinon, on a aussi Marre du rose. Ça, c'est un de mes préférés, qui est une petite fille qui en a marre du rose. Et si elle porte pas du rose et des paillettes et qu'elle joue pas à la poupée, on lui dit qu'elle a un garçon manqué. Et ça, c'est quelque chose qui me parle beaucoup, parce que qu'est-ce que ça veut dire, un garçon manqué? C'est ce qu'elle répond. Bah non, je suis une fille réussie. Et voilà. Et moi, j'adore ce genre de réflexions très spontanées, qui sont souvent des réponses réelles d'enfants. Et puis, ça peut interroger les adultes. Ça veut dire quoi être un garçon manqué? Ça veut dire quoi être une fille réussie? Est-ce qu'on pourrait pas être une fille qui joue dans les arbres, en fait, sans être caricaturée de garçon manqué? Du coup, voilà, c'est un beau pied de nez aux normes et à ce à quoi on devrait jouer quand on est une petite fille ou un petit garçon. Et puis voilà, et je terminerai sur l'histoire de Julie, qui avait une ombre de garçon, de Christian Bruel, Anne Galland et Anne Bozelec, qui est un vieux livre des années 70, qui c'est un des tournants justement sur la littérature jeunesse, où on a essayé de sortir un peu des clichés. Et les féministes des années 70, voilà, ont partagé cette histoire qui est plutôt en noir et blanc, mais qui est aussi un pied de nez sur la question garçon manqué, qu'est-ce qu'on devrait, comment on devrait être si on est une fille ou un garçon, à quoi on devrait ressembler. Quelle tenue on devrait porter, quelle coiffure. Du coup, voilà. Et puis, j'ai une petite liste que je partagerai sur notre blog prochainement quand on en aura un. Et surtout sur le podcast quand on vous fera la petite mise en ligne du podcast. Voilà. Et bien, à une prochaine pour une lecture peut-être un jour.
Et bien, merci Tiffany. On va faire une petite pause musicale avec Le corps des femmes de Mathilde and Friends.
Mais qu'est-ce qu'il a, le corps des femmes, pour qu'on lui foute jamais la paix? Combien faut-il de cris de larmes pour qu'on lui rende sa liberté? Mais qu'est-ce qu'il y a dans toutes les têtes de ceux qui bossent à la télé, sur les antennes, dans les papiers, toujours à vouloir nous glacer, nous enfermer dans leurs idéaux un peu machos, nous asservir pour assouvir comme des salauds leur libido. Mais qu'est-ce qu'il a, mon corps de femme, pour qu'on lui foute jamais la paix? Est-ce que ce serait vraiment un drame si on le montrait comme il est? Le corps des femmes porte leurs armes, porte la vie, porte leur drame. Le corps des femmes, leur seule raison, toujours saccagé sans raison. Je veux savoir pourquoi c'est toujours les femmes que l'on voit. Et pourquoi toi, en flamme, tu as servi le corps des femmes? Mais qu'est-ce qu'il a encore de femme pour qu'on ne cesse de l'emmerder, pour que toujours dans les réclames on m'y invite à le changer? Mais qu'est-ce qu'il a mon corps de femme pour qu'on le voie comme un objet? Si vous voulez qu'on m'avance, mon corps est parié. Oui, je suis libre, oui, je suis belle, chacun a beauté immortelle. Je suis la force irrésistible, la féminité irascible. Ils peuvent parler, ils peuvent juger, ils peuvent détester, cracher, quoi qu'ils en disent.
Alors, on va reprendre après cette petite pause, donc avec notre avant-dernier partage sur cet été, avec Béné, qui va nous parler des rencontres antinucléaires et féministes de Bure.
Oui, alors c'était déjà plus trop l'été, mais bon, encore un peu quand même. Du coup, oui, je suis allée à des rencontres féministes à Bure le week-end du 21 septembre, donc le week-end dernier. Et du coup, j'avais envie de partager un petit peu ce qui s'était passé là-bas et voilà, et comment je l'avais vécu moi. Alors je vais commencer par juste rappeler un petit peu c'est quoi le contexte de la lutte à Bure et pourquoi est-ce qu'il y a eu ce rassemblement. Du coup, Bure, c'est un lieu où il y a un projet d'enfouir des déchets nucléaires. Donc ça fait depuis 20 ans maintenant que le projet a commencé. Bure, ça se situe entre la Meuse et la Haute-Marne, donc dans un endroit où il n'y a pas beaucoup d'habitants, tout simplement. Et depuis 20 ans, du coup, il y a le projet CIGEO, qui est le Centre industriel de stockage géologique, qui est un projet d'enfouissement de déchets nucléaires à travers des galeries souterraines. Donc l'idée, c'est d'enterrer des déchets nucléaires ici, sachant que, bien sûr, il y a des conséquences possibles dont on ignore un peu la portée, mais en tout cas, voilà, il y a y a forcément des conséquences à cet enfouissement. Et il n'y a pas eu de consultation des habitants, bien sûr, lorsque le projet a été lancé. Donc il y a un laboratoire qui s'est installé là-bas, qui est le laboratoire de l'ANDRA, l'Agence Nationale de Gestion des Déchets Radioactifs. Et donc le laboratoire s'est implanté en rachetant des terres et des hectares de forêt. Et donc maintenant, c'est aujourd'hui 2000 hectares de terres agricoles et 1000 hectares de forêt qui sont consacrés à ce projet-là. Et ça concerne du coup plusieurs villages dans lesquels aussi il y a la volonté d'installer une laverie nucléaire. C'est-à-dire l'idée c'était de pouvoir laver les vêtements radioactifs dans la rivière du coin. Donc super. Et en plus de ça, ils ont développé sur le site, il y a toute une économie en gros qui est lancée. Donc il y a un musée de la nature, un hôtel-restaurant, des bâtiments d'archives d'EDF et d'Areva, un projet de station essence, enfin voilà, que des trucs super. Donc depuis 20 ans, il y a quand même une lutte qui s'organise contre ce projet-là. Donc des personnes qui vivaient directement sur place, mais aussi des gens qui sont venus s'installer à Bure dans le but de participer à la résistance. Donc en 2004-2005, il y a eu la création d'une maison de la résistance. Donc les personnes qui ont acheté les terres ont investi cette maison-là, qui est un lieu de lutte du coup. Et il y a eu ensuite, à partir de 2016, l'occupation du bois Le Jus, qui était du coup un bois dans lequel, qui permettait l'accès au laboratoire de l'ANDRA. Et donc il y a eu une occupation de ce bois qui a duré assez longtemps, qui s'est terminée par une expulsion, donc assez violemment. Et aujourd'hui, ce que disent aussi les personnes qui sont à Bure, c'est qu'il y a une très forte répression. Il y a beaucoup de procès qui sont en cours. Il y a des personnes qui sont interdites de territoire. Il y a des personnes qui ont eu des peines de prison ferme. Donc le territoire est complètement sous surveillance, hyper contrôlé et militarisé tout le temps. Il y a une surveillance qui est très très présente. Donc là, on l'a vu pendant le week-end. La police est tout le temps en train de surveiller ce qui se passe. Donc voilà, c'est une ambiance un petit peu bizarre quand même. Et donc voilà, dans ce cadre-là, l'idée c'était de se dire on appelle à un rassemblement féministe avec l'idée de se rassembler entre meufs, gouines, trans pour déjà montrer une présence, mais aussi dans le but de se dire redonner un certain souffle à cette lutte en fait. Du coup c'était hyper fort puisqu'on était pratiquement 500 à être venus de toute la France et ça faisait hyper longtemps qu'il n'y avait pas eu une manif à Bure déjà aussi nombreuse et puis en plus en non-mixité ça n'avait jamais eu lieu donc c'était vraiment hyper fort comme moment. Et du coup, il y avait le projet de faire une manifestation dans le week-end, mais c'était au-delà de ça aussi un rassemblement avec des discussions sur l'écoféminisme. Il y a eu des ateliers d'autodéfense, d'autres choses encore. Il y a un spectacle de clowns sur l'histoire de la chasse aux sorcières qui reprend l'histoire de Caliban et la sorcière de Federici d'ailleurs. Voilà, donc c'était vraiment un moment hyper, hyper fort et hyper intense. Et j'avais envie de vous lire un texte qui a été écrit du coup suite à la marche du samedi après-midi par les personnes présentes, les participantes. Donc je vais vous lire ce texte. Ce samedi, pour la première fois en France, 500 personnes ont marché en mixité choisie contre le nucléaire, à Bure, là où l'État prévoit d'enterrer les déchets les plus dangereux du parc nucléaire français. 500 femmes, gouines, trans, personnes non-binaires, queer, ont marché et ont pu constater les effets de la politique désastreuse du tout nucléaire en France. Elles sont passées à côté des travaux sur la voie ferrée qui acheminera l'intégralité des déchets nucléaires du pays. Elles sont passées par des zones arrosées de subventions publiques pour acheter l'acceptabilité des populations et elles ont dansé devant le laboratoire de l'ANDRA. Ensemble, des maires, des habitantes, des militantes et de nombreuses personnes qui n'étaient jamais venues à Bure ou qui avaient cessé de le faire ont regagné le droit inaliénable à manifester, alors que l'État, avec sa répression croissante, voudrait faire de ces territoires une zone interdite. Le cortège coloré et chantant a traversé la forêt accompagné d'animaux radioactifs et scandant des slogans émancipateurs. Fiers, vénères et anti-nucléaires. Ni famille, ni déchets nucléaires. Vous n'enfouirez pas nos colères. Nous rayonnons plus fort. Face à l'Andra, autour d'un feu de joie, une ronde ensorcelante a pris forme. Force, rire, colères et joie ont traversé nos corps. Le week-end continue. Demain, des discussions sur la suite de cette incroyable manifestation auront lieu. Ces 500 personnes ont montré qu'il était encore possible de résister par de nouvelles portes d'entrée en ouvrant nos imaginaires et en s'émancipant ensemble. Nous avons décidé de nous retrouver sans hommes cisgenres pour reprendre la place qu'on nous confisque trop souvent. Le temps de week-end, nous prenons la parole, nous montons des barnums, nous installons l'électricité. Nous nous redonnons de la force et de la confiance pour retourner ensuite dans une vie mixte où il nous faut affronter chaque jour le sexisme, le partage inégalitaire des tâches, des violences d'une société patriarcale. À l'heure du réchauffement climatique, l'industrie nucléaire est plus dangereuse que jamais. La fuite en avant du gouvernement actuel est une folie. À mesure que les catastrophes se multiplient, tornades, tsunamis, incendies, ces installations sont de plus en plus fragiles. À mesure que la planète brûle, il nous faut penser la sobriété énergétique et stopper une production industrielle qui nous asphyxie. En marchant à Bure ce 21 septembre, nous marchons aussi avec les Gilets jaunes et autres collectifs pour une rentrée climatique et sociale, afin de défendre un monde qui ne détruit pas le vivant et qui s'affranchit des rapports de domination.
Merci Béné, c'était chouette. Et c'était chouette parce que nous, on n'avait pas encore eu de retour. Et du coup, on l'a en direct et ça, c'est quand même vraiment grave stylé, quoi. Et ben du coup, c'est moi qui vais prendre la fin avec ma petite expérience de l'ET qui, moi, a tourné autour de comment j'ai découvert, j'ai commencé à m'approprier, parce que c'est que le début d'un grand boulot, mais ma définition du féminisme. Alors, c'est un truc qui peut sembler assez, pas évident, mais déjà travaillé par pas mal de meufs, mais moi, je crois qu'il m'a vraiment fallu ces 3-4 semaines de militante de mon été pour commencer à vraiment le travailler. Et donc, ça a commencé, en fait, avec une discussion avec une meuf que je connaissais pas depuis longtemps, Anaël, merci à toi, je pense que tu vas nous écouter et ça va être cool que tu puisses entendre ça, on pourra en reparler. Et en fait, on a discuté, donc je lui ai expliqué que je partais au Grand Contrat d'Orageuse, etc., et que on était un collectif qui avait monté une émission de radio féministe. Et là, j'ai senti son recul, en fait, quand j'ai utilisé ce terme, et elle me dit, mais tu sais, moi, les féministes, j'aime pas trop ça, ma mère, elle s'est définie féministe, et en fait, elle me disait qu'il fallait pas allaiter, que pour être une vraie femme et une femme féministe, il fallait la péridurale, il fallait pas trop s'occuper de ses enfants, etc., etc. Du coup, moi, ce mot-là, si vous le définissiez pas, et si vous, je sais pas ce que vous y mettez derrière, c'est vrai qu'il me donne pas envie. Et là, du coup, je me suis dit, attends, mais moi, c'est un mot que j'adore et que je revendique depuis quand même longtemps, mais c'est vrai, est-ce que j'ai vraiment réfléchi à ce qu'il y a derrière? Et du coup, je m'étais dit, j'avais tout de suite dit aux filles, il faudrait qu'on fasse une émission sur la définition de notre féminisme et sur ce que c'est. Et puis, j'ai un peu oublié, en fait, voilà. Et puis, sauf que, tout mon été, je me suis retrouvée plongée là-dedans, puisque la question, elle m'est revenue, mais alors directement, et puis de façon très frontale, justement, aux Radio Rageuses, donc aux rencontres des émissions de radio féministes de France, avec un atelier sur définition. Nos féminismes. Et donc là, je me retrouve à me dire, je vais devoir y aller. Et donc, en fait, je réalise qu'il y a plein de dissensions autour de cette définition. J'entends d'un côté une meuf qui me dit, mais moi, si Marlène Schiappa, elle se dit féministe, et moi, je le suis plus. De toute façon, c'est pas possible d'être féministe comme elle. Après, j'entends dire qu'en fait, il y a des femmes qui se disent féministes, des femmes hétéras qui se disent féministes, mais qui, en fait, ne soutiennent pas les lesbiennes dans leur combat et qui vont même plutôt prendre le parti d'hommes cis contre les lesbiennes. Donc là, moi, je me retrouve un peu en mode, oh là là, mais du coup, moi, mon féminisme là-dedans, il est quoi? Et puis, un dernier truc où c'est, en fait, il y a plein de féministes planches. Donc j'apprends qu'il y a la manif du 8 mars à Toulouse cette année. Il y a eu un cortège en non-mixité racisée, de femmes en non-mixité racisée, et qu'elles se sont fait complètement lâcher par les féministes blanches qui leur ont dit, mais vous avez pas à ramener ces questions-là ici, c'est pas du féminisme, etc. Et alors, du coup, moi, je me dis, mais en fait, mon féminisme, moi, je crois que c'est tout ça. Et en fait, je commençais à me dire, en effet, s'il y a des femmes féministes qui se définissent pas avec toutes les luttes, en effet, c'est probablement pas le mien. Et du coup, je commence à me dire que le mien, il repose dans on soutient les luttes des noirs, des racisés, des lesbiennes, de tout le monde, en fait. Et ça devient une évidence pour moi que mon féminisme, il est là, en fait. Et je pense que, du coup, toute cette réflexion, elle m'aide, du coup, à posteriori, puisque les rencontres radio-rageuses, donc juste une semaine avant, j'étais au contre-sommet du G7 à Biarritz. Et en fait, on a été plusieurs à monter plusieurs meufs 2019 a monté une émission, une manif en non-mixité pendant le contre-sommet, une manif non déclarée et non prévue en fait. Et le lendemain, on s'est toutes dit, on se connaissait quasiment aucune deux par deux en fait, et on s'est toutes dit que c'était un des moments les plus forts, probablement une des manifs les plus fortes en non-mixité qu'on avait toutes vécues. Et en fait, avec ce recul de ma réflexion sur ma définition du féminisme, je me dis que c'est peut-être parce qu'en fait, dans cet espace-là, je me suis retrouvée avec des femmes et des meufs et qui en fait partageaient ce anticapitalisme, anti-impérialisme, anti-patriarcat et qu'en fait mon féminisme il est peut-être là et c'est peut-être pour ça que ce moment-là il était aussi fort. Voilà. Et du coup maintenant les questions qui me restent c'est comment on est allié en fait des lesbiennes quand on est hétéro, comment on est allié des racisés quand on est blanche, comment est-ce qu'on est allié de toutes ces personnes-là. Et du coup, pour terminer ma petite intervention, j'avais juste envie de lire un bout d'un texte de Françoise Vergès sur « Toutes les féministes ne sont pas blanches », qui me parle bien et qui me parle bien sur cet aspect d'être alliée des femmes racisées. Donc, des femmes peuvent choisir de ne pas se dire féministes. Ce qui importe, c'est de continuer de réviser et de questionner le vocabulaire et les représentations occidentales de la liberté et de l'égalité, du féminisme et des droits des femmes. Ce qui importe, c'est de dénationaliser le féminisme, de le désoccidentaliser, de combattre le capitalisme racial et ses politiques racistes, car le féministe est antiraciste. Toutes les autres idéologies qui se disent féministes sont fémonationalistes, national-impériales, corporettes et inamicales au projet décolonial. La libération des femmes est un mouvement de justice sociale, de lutte sociale pour l'environnement, pour les droits des peuples autochtones, des LGBTI et pour poursuivre le processus historique de décolonisation. Voilà, merci.
Eh ben, merci Audrey pour ce témoignage de tes vacances. Pour terminer, on voulait vous donner notre adresse mail déjà. Si vous avez envie de nous faire des retours ou si vous avez, je sais pas, des titres qu'on a donnés en musique ou en bouquin, voilà, vous pouvez nous envoyer un mail à emissionfeministetour@riseup.net. Vous voyez, on avait fait original. Donc, emissionfeministetour@riseup.net. Et pour info, RiseUp, c'est RiseUp. Voilà. Et un dernier petit message. Voilà, Audrey parlait tout à l'heure des rencontres radio rageuses. En effet, on a été cet été plusieurs des tournements féministes à pouvoir aller en Isère, à Mans, à ces rencontres radio rageuses qui se sont déroulées sur 4 ou 5 journées fin août, début septembre, où on a rencontré plein de personnes qui participent à des émissions de radio comme nous, on commence à faire. Et du coup, c'est un réseau d'émissions féministes, en fait, Radio Rageuse, et qui héberge une plateforme qui est donc radiorageuse.net, où vous pouvez trouver tout plein d'émissions féministes de France et d'ailleurs, et qui brassent plein de thèmes, que ce soit des thèmes que nous on a brassés, mais des thèmes sur la sexualité, des thèmes sur la musique, des thèmes sur des luttes en cours, enfin voilà. Vous pouvez aller chercher ce qui vous intéresse, ce que vous avez envie d'écouter, et on vous racontera un peu plus de choses sur le réseau des rencontres radio rageuses dans la prochaine émission pour partager ça avec vous. Et ben, je vous souhaite une bonne semaine et à une prochaine.
Salut.
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 Salut. Petit problème technique, nous avons
loupé la musique.
La musique n'arrive pas.
Une musique qui s'appelle.
Elle ne veut pas se lancer.
Sua cartela passar pela minha goela. Cê nem sabe que na minha veia tem sangue de Teresa Benguela. Pra nós é muita treta ver uma preta contra outra preta, destruindo nossa luta. Um branco inventa e cês aceita? E parda é uma porra, respeita a minha história. Fiscal de melanina, nem vem que não faz glória. Rainhas coroadas de corpo e mente blindada. Eixo guia minha estrada por dandara abençoada. Da sua língua amaldiçoada eu sigo forte imune. Respeita a minha filha, herdeira de Aqualcune. Me rotulam todo mundo. Nem de que cor é você? Sai da cola do meu sangue, vai cobrar os WP. Se estatilha é bruta e brava, não me abafa ou vai ter. Rola bosta de internet, nós frita é no dendê. Militância fascista de internet ou de TV, que desmerece meu passado sem saber meu proceder.
Nesse mundo há quem só assista. artística na mira da polícia. Se não há forma de tomar a política, então tornamos essas peles mistas hereditárias as maneiras de criarem vítimas na mira da polícia. A culpa não é de quem é preto ou de pele mais clara. A branquitude é que torna ela puta, puta e falha. Tá cego com ego, então segue o rebanho. E não quem tá na batalha. Fica botando fogo em palha, criando novas muralhas. Façamos novos quilombos, não novelas de velhas senzalas. Fica botando fogo em palha, criando novas muralhas. Façamos novos quilombos, não novelas de velhas senzalas. Mas elas, choros e velas, somos todos sequelas. Não pensamos, não sonhamos como Nelson Mandela. Sonhou um dia em que todos se levantarão e compreenderão que somos feitos pra vivermos como irmãos. Será que a luta foi em vão? Mas elas, choros e velas, somos